Nous sommes heureux de nous retrouver. Nous revenons de vacances. On est arrivé juste hier en courant d'après-midi. Et on est bien content d'être à nouveau parmi vous et de pouvoir aussi ensemble nous mettre à l'écoute de cette parole qui est pour nous une parole de vie et de bienfait. Nous sommes dans la perspective de la rentrée. Ce n'est pas encore tout à fait notre culte de rentrée qui aura lieu dans 15 jours. Mais pendant le cours de l'été, j'avais commencé à faire une série de prédications autour du prophète Élisée, un prophète puissant en parole et en actes, dans une période bien troublée, et Dieu s'est manifesté d'une belle manière, même parmi son peuple qui s'éloignait de lui. Et nous continuons donc à lire juste quelques épisodes, et je vous invite à lire dans le deuxième livre des Rois, au chapitre 6, à partir du verset 8. 2 Rois 6, à partir du verset 8. Le roi d'Aram ou de Syrie était en guerre avec Israël. Il consulta ses serviteurs et dit « Mon camp sera à tel ou tel endroit. » Mais l'homme de Dieu envoya dire au roi d'Israël « Garde-toi de passer par cet endroit car les Syriens y descendent. » Alors le roi d'Israël envoya des gens, des observateurs probablement, vers l'endroit qui avait été mentionné et signalé, que lui avait signalé l'homme de Dieu, pour s'y tenir en observation. Cela arriva non seulement une ou deux fois. Le roi de Syrie en eut le cœur troublé. Il appela ses serviteurs et leur dit, « Ne voulez-vous pas m'indiquer lequel d'entre vous est pour le roi d'Israël ?» L'un des serviteurs répondit, « Personne, mon seigneur le roi. » Seulement, le prophète Élisée, qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Le roi dit, « Allez voir où il est, et je l'enverrai prendre. » On vint lui rapporter, « Il est à Dothan. » Il y envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui encerclèrent la ville. L'assistant de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici qu'une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Le jeune serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, qu'allons-nous faire ?» Il répondit, « N'aie pas peur, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. » Élisée pria en disant, « Éternel, ouvre ses yeux, je t'en prie, pour qu'il voie. » L'Éternel ouvrit les yeux du jeune serviteur qui vit ceci, la montagne autour pleine de chevaux et de chars de feu qui étaient là autour d'Élisée. Ils descendirent vers Élisée. Alors il pria l'Éternel en disant, « Frappe d'aveuglement cette troupe, je t'en prie. » L'Éternel les frappa d'aveuglement selon la parole d'Élisée. Élisée leur dit, « Ce n'est pas ici le chemin, ce n'est pas ici la ville. Suivez-moi et je vous conduirai vers l'homme que vous recherchez. » Il les conduisit à Samarie, capitale. Lorsqu'ils furent entrés dans Samarie, Élisée dit, « Seigneur, ouvre les yeux de ces gens pour qu'ils voient. » L'Éternel ouvrit leurs yeux et ils virent qu'ils étaient au milieu de Samarie. Le roi d'Israël, en les voyant, dit à Élisée, « Frapperai-je, mon père ?» Il répondit, « Tu ne frapperas pas. Est-ce que tu frappes ceux que tu fais prisonniers avec ton épée et ton arc ? Mets devant eux du pain et de l'eau afin qu'ils mangent et boivent. » Ils s'en aillent ensuite vers leur seigneur. Le roi d'Israël leur fit servir un grand repas. Ils mangèrent et burent, puis il les laissa partir. Ils s'en allèrent vers leur seigneur. Les troupes des Syriens ne continuèrent plus à venir dans le pays d'Israël. Jusqu'ici, notre lecture. Voici un récit qui, de bien des côtés, bouscule les attentes et les schémas. On y découvre des rois quelque peu déboussolés par les interventions d'un prophète, Élisée. On y découvre des gens qui sont censés voir et qui se révèlent de différentes manières aveuglés. C'est une histoire de guerre, mais il n'y a pas de sang versé. Le Seigneur se révèle comme ayant à sa disposition une grande armée céleste, mais il œuvre pour la paix. C'est aussi un récit qui a une dimension internationale, puisqu'il met en scène les Araméens, les Syriens et les Israélites. Curieusement, on ne sait pas qui est favorisé. Et surtout, à bien des reprises, il semble que les uns comme les autres sont sur le même plan. Le personnage qui domine la situation est Élisée, mais bien vite, on découvre que ce n'est pas lui qui a le rôle décisif, c'est bien sûr le Seigneur. Et on découvre ce Seigneur comme un Dieu plein de ressources. Un Dieu plein de ressources. Et il y a, je crois, pour nous, en ce temps de rentrée, un message bienfaisant et réconfortant. Prenons donc le temps de suivre le récit dans son déroulement. Une première séquence pourrait s'intituler « Plan déjoué ». De quel genre de plan s'agit-il ? Les premiers mots sont clairs et font partie de ceux que l'on n'aime pas rencontrer. Le roi d'Aram était en guerre avec Israël. On n'aime pas trop ce genre de récit, les récits de guerre. C'est pourtant un aspect incontournable de la réalité humaine. Dans un monde mauvais marqué par l'égoïsme, la volonté de puissance, la guerre existe. Sous forme de conflits armés, nous en connaissons tellement, sous de multiples formes plus subtiles, plus cachées, guerre économique, guerre d'influence, lutte pour le pouvoir, mafia, corruption. C'est la réalité de notre monde. La Bible nous parle du monde tel qu'il est. Tout le monde ne pense pas toujours au monde tel qu'il est. Nous avons eu l'occasion pendant nos vacances, on va un petit peu raconter des vacances, hein, de visiter le site d'Arc et Senans dans le Jura. C'est un site qui a été construit vers la fin du XVIIIe siècle pour abriter les manufactures royales où l'on traitait le sel, qui avait une très grande valeur à l'époque. Et la construction de ce site de travail a été confiée à un architecte, Claude-Nicolas Ledoux. Et il a réalisé un site architectural grandiose pour des ouvriers qui travaillaient dans des conditions parfois inhumaines, à plus de 70 degrés. Une fois cette œuvre réalisée, l'architecte a continué sa réflexion en disant « je vais faire encore mieux ». Et il a imaginé une cité idéale. Et il a fait des plans pour cela. Son principe directeur était le suivant. C'était le principe des Lumières, que l'homme est naturellement bon. Si on lui donne un cadre de vie adéquat, avec notamment une architecture qui élève ses pensées vers le beau, c'est comme cela que l'on éradiquera le mal. Et c'est ainsi qu'il a envisagé sa cité idéale qui devait permettre à l'homme de s'élever. C'est très très étonnant de voir combien une telle utopie a pu exister. Aujourd'hui, en voyant la réalité, l'information que l'on a, on sait qu'on ne peut plus croire à cela. Ça fait un drôle d'effet de penser qu'on a pu vraiment, de se rendre compte qu'on a pu penser et agir selon le principe de la bonté naturelle de l'homme. La Bible, elle, ne cède pas à de telles utopies, tout en nous appelant malgré tout à l'espérance. Et face au mal de l'homme, on est appelé à la conversion, à un changement que le Seigneur seul peut opérer. Et c'est parce que la Bible a ce réalisme qu'elle parle aussi de guerre entre le peuple d'Israël et ses voisins. Elle nous dit que Dieu veut nous rejoindre dans ce que nous vivons. Que se passe-t-il lorsque le Seigneur se mêle d'une telle situation ? Notre récit est singulièrement décalé par rapport à ce qu'il est convenu d'attendre dans un récit de guerre. Y a-t-il une bataille ? Non. Parle-t-on de morts en chiffres impressionnants ? Non. Le souci de Dieu est autre. On voit d'abord que Dieu a le souci de se faire connaître, de s'authentifier lui-même. Et c'est ça son souci principal, plutôt que d'infliger une victoire retentissante à l'un ou l'autre des belligérants. Ensuite, on voit que le Seigneur a le souci de travailler à la paix. Et il y réussit sans qu'il y ait la moindre violence. Car notre récit commence par « Le roi d'Aram était en guerre avec Israël » et se termine par « Les troupes des Araméens ne continuèrent plus à venir en Israël ». Entre les deux, des épisodes qui tour à tour font sourire et réfléchir. C'est vraiment la drôle de guerre. Et l'une des affirmations bibliques, que Dieu veut être un Dieu de paix, même s'il doit agir et intervenir dans un monde qui est marqué par la guerre, par le conflit. Le premier personnage que nous découvrons est le roi d'Aram ou de Syrie. Il nous est présenté comme un chef de guerre entreprenant, réfléchi, tacticien. Et nous le retrouvons à plusieurs reprises en réunion d'état-major. Il consulte ses serviteurs, mais on dirait aujourd'hui ses hauts fonctionnaires. Sa visée semble être de lancer des batailles surprises. Notre camp sera à tel ou tel endroit, des endroits probablement, certainement assez improbables, avec peut-être plutôt des petites unités qu'une grande armée, mais des unités aguerries, fortes de l'effet surprise. Et bien sûr, secret absolu autour de l'opération. Que se passe-t-il pour lui ? Une fois, deux fois et plus, à chaque endroit de son attaque surprise, il se découvre précédé par des hommes d'Israël. Des hommes sont là, d'Israël, des guetteurs probablement en observation, qui certainement annoncent une troupe en embuscade derrière. C'est pour le roi d'Aram le coup de l'arroseur arrosé. Celui qui voulait prendre par surprise est lui-même pris par surprise sur les lieux mêmes où il devait surprendre. Du coup, son plan d'attaque surprise étant annulé, il bat en retraite. Il semble bien, d'après le texte, qu'il n'y a pas de combat parce que, justement, l'effet de surprise est manqué. Le lecteur du texte biblique est averti très tôt de la raison de cette situation. Nous savons très vite, quand nous lisons le texte, qu'Élisée, l'homme de Dieu, révèle au roi d'Israël les projets secrets de l'état-major araméen. Élisée le fait par une révélation qu'il reçoit du Seigneur, le Seigneur qui voit et qui connaît toutes choses. Et donc nous, lecteurs, nous sommes un peu en avance sur le roi d'Aram. Et ça nous permet de sourire un petit peu. On sourit de ces tentatives avortées l'une après l'autre. On sourit de celles qui sont passées, de celles qu'on imagine à venir. Quoi qu'il fasse, tout ce qu'il fera sera déjà dit au roi d'Israël par Élisée. Et finalement, ce roi puissant devient très peu de choses. Il est à chaque fois connu d'avance dans ses projets, et du coup, il est prévisible et vulnérable là où il se croyait fort. Pour le roi d'Aram, c'est incompréhensible et inacceptable. Après plusieurs épisodes, ce qui exclut le hasard, il est en fureur. Il nous est dit, il a le cœur troublé, et le mot désigne une vraie tempête intérieure, soit de colère, soit d'incompréhension, soit les deux. Il cherche des explications, et la seule qu'il entrevoit est celle qu'il y ait une taupe, un espion au plus haut niveau de son état-major. Là encore, le lecteur qui sait sourit. La vraie réponse est ailleurs. Finalement, un informateur la donne, cette réponse, au roi d'Aram, et lui dit, Élisée le prophète qui est en Israël, raconte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Pourquoi le récit est-il construit ainsi? En nous mettant, nous, lecteurs, dans la confidence dès le début. C'est que du coup, ce roi puissant, intelligent, fin stratège, apparaît comme très peu de choses. Ses plans les plus élaborés ressemblent à des gesticulations inutiles. Ses secrets sont percés en pleine lumière. Il ne surprendra personne, il ne surprendra jamais. On pourra toujours le contrecarrer, toujours trouver une parade. Est-ce une manière de tourner en ridicule un ennemi? Pas du tout. Ce texte nous fait sentir l'intelligence du roi d'Aram. Mais cette intelligence et ces projets qui pourraient être redoutables sont désarmés parce que totalement percés à jour. Le lecteur est donc tranquille. Avec un Dieu qui sait tout, qu'a-t-on à craindre des stratégies du roi d'Aram? On est en paix quand on lit qu'il y a une, deux attaques et plus, qu'il y en ait encore. Le Seigneur sait. Le Seigneur lit à l'avance, il connaît tout de A à Z, il peut tout déjouer. Quand on ressent cela, on est rejoint par le message que veut nous livrer ce texte. Avec un Dieu qui sait tout de tout et qui sait tout de tous, qu'a-t-on à redouter? Si ce Dieu-là est pour nous, Qui sera contre nous? Un Dieu qui sait tout. Un Dieu qui connaît toutes choses. Un Dieu qui connaît toutes choses est une puissance et une sécurité immense. Et on entend presque en écho de ce texte le psaume 2 qui dit quelque chose de semblable. Pourquoi des nations s'agitent-elles et les peuples ont-ils de vaines pensées? Les rois de la terre se dressent, les princes se liguent entre eux contre l'Éternel et contre son Messie. Mais le Seigneur, celui qui siège dans les cieux, rit ou sourit. Il se moque d'eux et il leur parle dans sa colère. La connaissance de Dieu lui donne une maîtrise sur toute chose. Bien sûr, nous ne savons pas comment Dieu gère cette connaissance qu'il a de toute chose. Cela lui appartient. Mais ce qui est certain, c'est qu'avec une telle connaissance, rien ni personne ne peut s'opposer à ses desseins. Rien ni personne ne peut s'opposer à ses projets, à ses décisions. Jamais il ne sera pris par surprise, au dépourvu, ce qui est notre cas à nous si souvent. La connaissance qu'a Dieu de toutes choses est une grande puissance et un gage de sécurité. C'est quelque chose auquel on ne pense pas forcément toujours. Hein. On pense beaucoup plus à la puissance de Dieu. La puissance de Dieu, ça compte énormément. Mais son intelligence est aussi une grande force. Gage de sécurité, gage de grande confiance. Et ce texte, de manière très simple, nous fait comprendre la force immense de l'intelligence de notre Seigneur. La passion de Jésus, le Messie, annoncé par le psaume 2, contre lequel toutes les forces du mal humain ou spirituel s'étaient liguées, a démontré la force de l'intelligence et de la puissance de Dieu. Le Seigneur l'a aussi appris à leur propre piège, les plans et les énergies liguées contre Jésus. Il a complètement retourné ces puissances dans leur déchaînement même. Ce qui semblait leur victoire est devenue leur défaite irrémédiable. Le Seigneur a pu se risquer à cela parce qu'il savait tout de tout et parce qu'il avait aussi toute la puissance à sa disposition. L'intelligence du Seigneur est une grande sécurité pour nous. Si ce Dieu-là est pour nous, qui sera contre nous? Mais revenons à notre récit. Le prophète Élisée, dit-on au roi d'Aram, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Là encore, on sourit de la formule, parce que vous aurez remarqué que cette formule dépasse le cadre fonctionnel des réunions d'état-major. Ce n'est pas juste ce qui se passe dans ton état-major, quand tu es avec tes généraux. On arrive, le Seigneur rapporte à Élisée ce que tu dis dans le cadre très privé de ta chambre de joie, de roi. Avec tes secrets d'alcôve, on sourit en entendant cela. Mais très vite ici, notre sourire de lecteur se fige. Et ma chambre à moi, et mon intimité, et mes paroles les plus secrètes, et mes pensées les plus secrètes, et mes actions les plus secrètes. Cela aussi, le Seigneur le sait. Heureusement, il ne le divulgue pas. Heureusement aussi, il le sait d'une manière bienfaisante pour ses enfants, avec une vraie joie pour tout ce qui fait notre bien. Et Dieu n'est pas ce surveillant qui est là en train de nous guetter avec la caméra. C'est un Dieu qui prend plaisir à tout ce qui est bon pour nous. Mais que de fois aussi ne doit-il pas être attristé? Que de fois doit-il choisir de nous aimer encore, malgré ce qu'il sait, malgré ce qu'il voit de nous? Qui es-tu quand personne ne te voit? Ça, c'est une grande question. Qui es-tu quand personne ne te voit? Oh, j'aimerais tellement être saint. J'aimerais tellement plaire à Dieu dans un maximum de choses qu'il sait de moi. Sanctifie-moi, Seigneur, par ton Esprit Saint, toi qui connais tout de moi. Nous avons parlé du roi d'Aram, mais il faut dire un mot du roi d'Israël maintenant. Il s'agit probablement de Joram, fils d'Akab et de Jézabel, qui se sont entièrement adonnés, qui s'étaient entièrement adonnés au culte de Baal et ont persécuté ceux qui restaient fidèles à l'Éternel. Joram est quelqu'un, est revenu quelque peu sur les excès de ses parents, mais son bilan spirituel reste bien négatif, car il entretient un culte rival à celui du Seigneur dans le royaume du Nord, avec ses propres règles, avec des représentations visibles, pour éviter de dépendre de Jérusalem et du Temple. Les attaques du roi d'Aram, les menaces que subit son royaume d'Israël au nord, le harcèlement dont il est l'objet sont la rançon de cet abandon du Seigneur. Mais que découvre-t-il, ce roi qui a bien abandonné la fidélité à Dieu ? Il découvre qu'une fois, deux fois, trois fois, le Seigneur qu'il a abandonné met à sa disposition les connaissances les plus nécessaires pour pouvoir s'en sortir. Et c'est par pure générosité, ce n'est pas Joram qui, dans sa détresse, appelle Élisée pour lui dire au secours, mais c'est Élisée qui vient, qui prend l'initiative pour dire à Joram, fais attention, tu seras attaqué à tel endroit. Et cette parole qui le prévient, qui s'avère totalement vraie et absolument vitale. Et on voit ici que Dieu tient à s'attester à Joram l'infidèle et à le faire de sa propre générosité, de sa propre initiative. Et c'est à chaque fois pour Joram un bienfait et une délivrance. Ça, c'est encore une manière d'agir de Dieu ici, qui est étonnante et qu'on trouve tout au long du ministère d'Élie et d'Élisée. Et on retrouve ici, pour reprendre les paroles de l'apôtre Paul, la bonté de Dieu qui se manifeste, mais qui devrait pousser à la repentance. La bonté de Dieu se manifeste comme un appel à revenir à lui. Dieu fait du bien, même à certains de ceux qui s'éloignent de lui. Mais c'est comme ici pour Joram, une invitation à venir, à revenir à lui. Alors si nous sommes dans ce cas, recevons le message. Il est important, il est vital. Voilà pour la première étape de ce récit avec ces plans qui sont déjoués. Une deuxième étape de notre récit pourrait s'intituler « Aveuglement guéri ». Aveuglement au pluriel, car deux groupes sont concernés. D'un côté, le serviteur d'Élisée, de l'autre côté, une troupe de soldats araméens. Que se passe-t-il ? Informé de la cause de ses revers, le roi d'Aram décide de capturer Élisée. Le prophète se trouve à Dothan, qui est une petite ville sans défense particulière, sur la route entre Damas et Samarie. Et le roi de Syrie envoie une troupe importante, des chevaux et des chars, nous a-t-il dit, qui encercle la ville pendant la nuit. Autrement dit, chat échaudé craint l'eau froide. Le roi de Syrie met les moyens pour s'emparer de ce prophète si bien informé, si bien averti. Et le nombre de moyens qu'il met en œuvre montre sa crainte qu'il a qu'Élisée s'échappe. Au petit matin, l'assistant d'Élisée, qui s'est levé tôt, découvre la situation. Et il est paniqué. Cette fois-ci, ils ont réussi une attaque surprise. Et cela tombe juste sur nous. Il y a le choc de se découvrir encerclé dans un premier temps. Mais en plus, le choc que Dieu n'ait pas averti de cette attaque. Dieu avait toujours averti de toutes les attaques. Et le serviteur certainement avait pris l'habitude de se dire « Moi, je suis avec Élisée, le prophète qui sait tout, je suis en sécurité. » Jamais il n'aurait imaginé qu'Élisée puisse se retrouver lui-même victime d'une attaque surprise, la nuit, comme ça. C'était juste impensable. Le choc de ce serviteur est certainement ce bouleversement de sa vision du monde. Dieu a si souvent averti, il le fera toujours. On saura toujours à l'avance les plans du roi d'Aram. Ces attaques surprises échoueront toujours. Le prophète, plus que tout autre, sera toujours protégé. Voilà certainement la sécurité que s'était forgée l'assistant d'Élisée. Ce genre de raisonnement que nous faisons aussi parfois, à partir de ce que nous avons déjà vécu. Dieu ne permettra jamais que... Hein, vous n'avez jamais dit ça ? Le Seigneur ne permettra jamais ceci ou cela. On construit une certaine vision des choses. Et le Seigneur ici casse le schéma protecteur de l'assistant d'Élisée. Il casse cette limite qu'il s'était certainement construite. Pourquoi Dieu agit-il ainsi? Ce n'est pas par plaisir d'insécuriser, mais c'est pour ouvrir cet homme à une conception plus large des ressources de Dieu et pour l'inviter à une sécurité plus profonde que celle d'être aux côtés du prophète qui sait tout à l'avance. Lorsqu'il s'approche d'Élisée pour lui dire la situation, Élisée n'est pas désarçonné. Il a au contraire une parole de confiance et lui dit « Ne crains pas, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. » Quelle est la source de ce calme du prophète, encerclé par une armée ennemie? C'est qu'il se sait entouré plus encore par le Seigneur aux multiples ressources. Car Dieu possède les ressources de la connaissance, il l'a déjà montré pendant toute la première partie de ce récit, mais le Seigneur a aussi les ressources de sa puissance et toutes les ressources de sa capacité d'intervention en toutes sortes de situations. Élisée est privé d'une parole de connaissance sur les projets du roi d'Aram, mais il n'est pas pour autant démuni. Il peut avoir confiance dans les ressources multiples du Seigneur pour les siens. Et c'est alors qu'Élisée prie pour que son assistant partage lui aussi la vision des choses que donne la foi. Et il demande à Dieu d'ouvrir les yeux de son serviteur afin qu'il voie. Et là, le serviteur découvre ébloui sur toutes les collines qui environnent la ville comme une armée de chevaux, de chars et de feu. Ces mêmes chars de feu qui avaient enlevé Élie au ciel sont là maintenant partout autour. Les puissances célestes à la disposition du Seigneur sont présentes là, dans cette situation où ils sont encerclés par ceux qui veulent les prendre. Ces puissances ne sont pas visibles à l'œil nu, ce sont des réalités spirituelles. En temps normal, il nous est demandé de croire que Dieu est là, qu'il peut agir, qu'il nous protège, qu'il veille sur nous, qu'il a les ressources pour cela. Mais là, exceptionnellement, l'assistant d'Élisée a le privilège de voir ces réalités qui autrement nous sont cachées. Et quel réconfort que de se découvrir entouré alors qu'on se croyait seul. Quel réconfort de se découvrir protégé alors que l'on se croyait assiégé. Quel réconfort de se découvrir gardé alors que l'on se croyait sans défense. L'ange de l'Éternel nous dit le psaume 34, campe autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger. Et cette parole dit fondamentalement la sécurité qu'apporte la présence et l'action de Dieu pour les siens. Mais cette action peut aussi se manifester par l'intervention de créatures célestes comme les anges lorsqu'une interface est nécessaire entre le monde spirituel et la réalité humaine. Des témoignages existent, multiples, de chrétiens qui ont été ainsi protégés, sans le voir eux-mêmes, protégés par des êtres lumineux qui ont tenu à distance ceux qui leur voulaient du mal, par exemple. Et nous devons nous rappeler que si les forces du mal sont actives de bien des manières, le Seigneur n'est jamais démuni quant aux forces du bien. Et Jésus lui-même a affirmé lors de son arrestation à Gethsémané qu'il pourrait recevoir de son Père, s'il la demandait, l'aide de 12 légions d'anges. Mais il n'a pas eu recours à ce moyen parce qu'il lui fallait accomplir les Écritures et subir la passion pour notre salut. Ouvre ses yeux et qu'il voie, demande Élisée à Dieu pour son assistant. Et l'apôtre Paul demande pour nous aussi que notre regard de foi soit éclairé quant aux ressources de Dieu pour nous. Éphésiens 1, versets 18 à 20. Je demande que le Seigneur illumine les yeux de votre cœur, afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, l'appel qu'il vous a adressé. Quelle est la glorieuse richesse de son héritage au milieu des saints? Et quelle est la grandeur surabondante de sa puissance envers nous qui croyons, selon l'action souveraine de sa force qu'il a mise en œuvre dans le Christ en le ressuscitant des morts. Gardons cette perspective de Dieu qui n'est jamais à court de moyens. Cultivons ce regard qui sait voir le visible comme Élisée face à l'armée qui l'encerclait, mais qui sait voir aussi par-delà le visible et garder une pleine confiance dans les ressources de Dieu pour nous, même là où nos sécurités disparaissent, où nous sont ôtées. Apprenons à tenir ferme dans la foi, même lorsque nos sécurités nous sont ôtées et que Dieu veut nous conduire un pas de plus dans la confiance, comme il l'a fait là pour le serviteur d'Élisée. Nous n'aurons pas forcément à voir les armées célestes, mais ce témoignage nous a été consigné dans l'Écriture pour notre instruction, pour nous permettre de savoir ce qu'il en est lorsque parfois nous nous sentons bien démunis. Nous restons entourés par la puissance et les moyens d'action de Dieu. Cette action du Seigneur, qui éclaire le regard des siens, est aussi capable d'aveugler ceux qui ont besoin d'être désarmés. Et c'est ce qui arrive ici aux troupes araméennes, frappé d'aveuglement lorsqu'Élisée le demande à Dieu. Et l'on assiste ainsi à un renversement du rapport des forces. Ceux qui paraissaient être une menace dangereuse deviennent une troupe d'hommes dépendants et insécurisés. Élisée les aborde et les conduit lui-même tout en leur promettant de les amener jusqu'à lui. Ce n'est pas tout à fait un mensonge, c'est une parole qui dit « Je vais vous amener à celui que vous cherchez ». Et il va le faire, en effet. Mais dans le cadre qui semblera le bon. Cela peut sembler humiliant pour ces hommes, mais n'oublions pas l'essentiel. Ils ont la grâce de la vie. Ils ont la grâce de la vie. Ils auraient pu être détruits, foudroyés, pulvérisés par cette armée qui était là partout autour, cette armée céleste. Imagine ce qui a dû se passer, en tout cas, dans le cœur de l'assistant d'Élisée alors qu'il conduisait ses hommes vers Samarie. Lui qui s'était senti tellement désarmé devant la ville encerclée. « Oh Seigneur, Dieu a des ressources, Dieu a des ressources. Je ne pourrais jamais oublier ça. Dieu a des ressources pour les siens. » Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Je termine bientôt. Car ce récit nous dit que, oui, Dieu a des ressources de connaissance, comme nous l'avons vu, des ressources de puissance. Mais ce texte veut aussi nous dire que Dieu a des ressources d'amour. Et ça, c'est l'enseignement de la fin du récit. Lorsque la troupe araméenne conduite à Samarie retrouve la vue. Les voilà dans la capitale, Samarie, amenée par Élisée au roi d'Israël, qui n'avait jamais demandé ça, qui n'avait jamais demandé qu'on lui amène une troupe comme cela de prisonniers. Eux qui encerclaient sont à présent encerclés. Mais Élisée, qu'ils étaient venus chercher pour le faire prisonnier, ordonne à son roi d'user de bonté envers eux, puis de les libérer. Et voilà cette troupe de soldats qui découvre que si le roi d'Israël est un roi comme les autres, parce que le premier réflexe du roi Joram était de dire « Je vais les tuer, n'est-ce pas ?» Le Dieu d'Israël, lui, n'est pas un Dieu comme les autres. Il a la puissance d'arrêter, la puissance d'aveugler, de mettre dans une situation où il pourrait être exterminé. Mais il use de bonté et de générosité, même envers un peuple ennemi. C'est la deuxième fois que ça arrive. Juste avant, la première fois, ça avait été la guérison d'un général syrien, Naaman. Ici, l'aventure se termine pour ces hommes par un festin délicieux, puis par une libération de toute la troupe, avec un message de générosité et de paix. Et le roi de Syrie sait désormais que le Dieu d'Israël est grand par sa connaissance, oui, qu'il est puissant pour désarmer, mais qu'il est bon et généreux au-delà de toute mesure et qu'il aime même ses ennemis. C'est ce qui permettra l'instauration d'une paix durable. Et du paix, les troupes syriennes, des Syriens, ne continuèrent plus à venir dans le pays d'Israël. Quant à nous qui entendons ce récit, nous sommes invités à une confiance renouvelée. Dieu a des ressources pour ceux qui se confient en lui. Mais cette confiance, rappelons-le, doit être et rester au service de l'amour. Car Dieu est un Dieu de paix. Il l'a montré ici dans ce récit, il le montre plus encore en Jésus-Christ, venu nous sauver alors que nous étions ennemis bien loin de lui. Et je ne peux que terminer avec ce qui est notre devise pour cette année, heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Amen.